Ouais, bah là-bas, si j'y suis en ce moment, c'est vraiment de la bombe. Godin, La Gare et Lafayette, c'était une émission extraordinaire. Et puis ce soir, vraiment, on termine en apogée avec le duo particulièrement talentueux de ces deux sociologues et journalistes, Pierre Rimbert et Alimi, que je chéris plus particulièrement. C'est du bonheur, si ce n'est que, ben, bien sûr, on rit jaune en entendant tout ça, on rit jaune. Mais merci, immense merci. C'est très, très, très instructif, très, très, très subversif. C'est incroyable le décalage qu'on ressent en entendant ça, qui ne sont finalement que des vérités révélées, si je puis dire, sur cette émission qui est réactionnaire. Moi, j'avais quoi? J'avais 19 ans quand elle est passée. Cette putain d'émission, je me souviens de ça, mais aujourd'hui, avec le recul, c'est incroyable de dire, voilà, des tabous, qu'est-ce que j'ai noté, ouais, c'est vous et vous seul qui trouvez la solution, effectivement, enfin, ciao.
Merci pour la diffusion de cette émission capitale. C'est à la suite de cette chose que je me suis rendu compte que des copains me mentaient. Ils disaient mépriser la télé, mais le lendemain, ils ne parlaient que de ça. Le verre leur aurait été tellement rentré dans la tête que je les ai quittés. Résister, c'est créer quelquefois, mais c'est tuer souvent. Je ne regrette pas ces relations d'il y a 20 ans déjà, mais ce reste les blessures et sa marque. L'immense mensonge qui nous avait réunis.
Salut Daniel, c'est Nico de Paris. Je viens d'écouter ton émission là sur Vive la crise. Quand j'étais tout petit, je voyais un peu Mitterrand, je connaissais pas trop. Je me doutais bien que c'était pas un homme formidable. Mais bon, là on en apprend beaucoup. On sait que c'était quand même un homme influent pour qu'il y ait de tels résultats aujourd'hui. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. Merci aussi à tes intervenants d'avoir tiré à boulet rouge sur l'intelligentsia. Et ça fait vraiment plaisir d'entendre des choses comme ça. Et vive France Inter, vive ton émission, et que ça continue et longtemps. Salut Daniel.
Bonsoir Christophe, bonsoir Daniel. Je vous appelle pour vous dire que l'émission d'aujourd'hui, vendredi, là, je me suis régalé, putain, mais vraiment régalé. J'ai fait partie des 20 millions de Français qui ont regardé l'émission Vive la crise. Le 22 février, j'avais oublié la date là, le 22 février 1984, et on nous annonçait, voilà, que le monde allait changer, qu'il fallait laisser la voie libre au dynamisme, à l'esprit d'entreprise, il fallait pas être désassisté, puis je me souviens très bien, hein, à l'époque, je trouvais que ça sentait mauvais, quoi. J'ai dit, ouais, c'est ça, en fait, c'est vers ça que se dirige la gauche au pouvoir. Et puis l'arrivée de Canal+, des télés privées, Berlusconi, tous ces gens-là, voilà. Et enfin, toute cette politique, en fait, qui ne visait, sous une apparence comme ça, dynamisante, qui ne vise, en fait, qu'à continuer à enrichir les plus riches et leur donner, et donner encore plus de pouvoir aux gens les plus malins pour s'en foutre plein les poches, quoi. Et sans avoir le scrupule de mettre les autres sur la paille.
Bonjour, Isabelle, la patronne du café du repère des amis de la Bastille, j'y suis à Bouc-sur-Ville. Eh bien, on était une trentaine ce soir, la soirée est finie. Beaucoup d'idées, beaucoup de projets, on vous en reparlera. Et puis, ça se finit dans une bonne ambiance, comme vous pouvez l'entendre. À bientôt.
Et voilà, ça se passe comme ça dans les repères des amis de la Basse où j'y suis. Celui-là, c'est à Bouc-sur-Hulle. Et on a des échos, effectivement, des repères d'un peu partout, de Paris, de Groix, de Toulouse, de Marseille, de Nîmes, etc. C'est très, très, très sympa, ces échos. Et puis, alors, vous avez été contents, ravis de l'émission de vendredi. Voilà, on commence la semaine dans un bain d'autosatisfaction. Je rappelle que l'émission de vendredi, avec comme commentateur et observateur Serge Alimi et Pierre Rimbert sur cette émission de télévision de 1984 qui s'appelait Vive la crise. Aujourd'hui, on part pour Mayotte. Mayotte. Savez-vous où se trouve Mayotte? Amusez-vous autour de vous à demander aux amis où est Mayotte, et vous-même, savez-vous où est Mayotte? Eh ben, très très peu de Français métropolitains savent où ça se trouve. Et ce qui s'y passe? Est-ce qu'il s'y passe surtout à Mayotte? Ça fait déjà un bout de temps, hein, que des auditeurs mahorais ou de passage à Mayotte ou résidents provisoirement à Mayotte avaient essayé d'attirer l'attention de notre attention sur cette ce petit confetti de l'Empire. Et ben on a fini par y aller avec Guy Vanctil, et c'est ce qu'on va vous raconter. On va essayer de vous faire comprendre ce qu'on a essayé de comprendre sur cette île et sur les Comores. C'est tout de suite après ces messages que vous avez laissés sur le répondeur de la Basse-Ugissi au 01 56 40 37 37.
Oui, bonjour, ici Gilbert de Dijon. Voilà, c'est au sujet de l'émission Vive la crise avec mon temps. Je voudrais vous demander, le canard enchaîné à l'époque, je m'en souviens, je crois bien que c'est le canard enchaîné, avait dit qu'il avait révélé que Montand avait touché 800 000 francs, 80 millions de centimes à cette époque pour animer cette émission. Je voudrais que vous nous disiez, pour dire à l'antenne, c'est pas, si c'est vrai, c'est pas un secret. Si cette information est vraie, dans ce cas-là, ce serait réellement, réellement scandaleux, quand même. Mais déjà, ça m'avait, quand j'avais vu ça, ça m'avait scandalisé, mais après votre émission, les auditeurs seront, je pense, heureux de l'apprendre. Merci, au revoir.
Bonjour, Pierre-Véronique Abrissac. J'ai écouté l'émission vendredi en réaction à votre émission, donc, Vive la crise. À l'époque, j'avais 44 ans. J'ai cru à un coup médiatique pour introniser Yves Montand, candidat présidentiel. Personne à l'époque, je pense, n'était dupe d'un retour à la troisième force. À l'époque, moi, j'étais conseiller à la NPE de Montpellier. Le chômage empirait. La rigueur sévissait. Personne ne pouvait imaginer la casse sociale qui se préparait. Et c'est pour ça que je me demande, au-delà du constat, ce que Serge Halimi voyait-il, est-ce qu'il voyait à cette époque une alternative pour résister? Je ne sais pas, mais on était tous un petit peu sans se rendre compte de ce qui allait se passer dans les 20 ans qui ont suivi. Allez, salut à tous et merci encore.
Oui, bonjour Daniel, bonjour à toute l'équipe. Donc c'est Jean-Pierre de Saint-Égrève à côté de Grenoble. Donc ça y est, on y est, je vous annonce à toutes et à tous ceux qui écoutaient, je vous annonce l'ouverture d'un nouveau repère là-bas si j'y suis, à Saint-Égrève, au Café Le Manon rue Saint-Robert. La patronne c'est Pascal et les patronnes c'est Pascal et Céline, donc Jean-Pierre, moi, le contact. Première réunion donc demain soir, mardi 10 à 20h45. Donc en espérant que vous serez nombreux, on abordera comme premier débat, enfin on a envie en tout cas d'aborder comme premier débat ce que devient la circulaire Bockelstein, parce que ça nous paraît être quelque chose d'important. Mais de toute façon, ce sera les gens qui y sont qui y feront le débat. Voilà, bonne journée, merci, au revoir.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis avec Guy Vanctil. Mayotte, un confetti explosif. Lagon, parfum de santal, parfum de ylang-ylang, parfum de toutes sortes, parfum de la nuit. Des femmes passent avec ces maquillages étonnants, ces masques étonnants, des sourires, de la grâce, de la gentillesse. On est bien, formidable, on ne regrette pas du tout les 15 heures de l'avion qu'on a fait pour venir jusque-là. À Mayotte et dans les Comores. On est bien, sauf qu'on peut pas oublier ce soir les images qu'on a vues en arrivant, en débarquant ici, en arrivant à Mamoudzou, qui est la capitale de la grande terre de Mayotte. Première image, un panier à salade avec des hommes dedans, encadrés, tenus par des militaires, des gendarmes peut-être, des policiers, c'est pas très bien, avec des gants noirs, des hommes noirs, encadré par ces militaires blancs, et dans ce panier à salade. Et le panier à salade va prendre le bac pour Dzaoudzi, c'est-à-dire la petite terre, et de là, eh bien, ces hommes iront dans un centre de rétention et seront reconduits chez eux, dans les Comores. C'est la première image que nous avons eue en arrivant à Mayotte, et c'est la dernière image aussi que nous avons eue en repartant de Mayotte, la reconduite à la frontière. Les clandestins, les sans-papiers, les irréguliers. Alors c'est un problème qui se pose dans tous les confettis de l'Empire, dans les dômes et dans les tomes. Les confettis de l'Empire, c'est une expression qui avait été inventée dans les années 70, je crois que par Jean-Claude Guibaud, pour décrire ces bouts de France qui restent encore un peu partout, les dômes, les tomes, et là, eh bien, c'est Mayotte. Et les problèmes sont communs avec la Guyane, avec les Antilles, avec tous ces confettis qui connaissent une certaine prospérité, mais qui est en contraste extrêmement violent avec les pays alentours. Souvenez-vous de la Guyane, du sud de la Guyane, de Maripasoula, par exemple, par rapport au Brésil voisin, le différentiel social, comme on dit. Aujourd'hui, dans les Antilles françaises, même problème avec les Haïtiens, très pauvres à côté, francophones, eux aussi. Et puis nous voilà à Mayotte. Sauf que Mayotte, on connaît moins, on connaît même pas du tout. Alors où c'est d'abord Mayotte? Commençons par le commencement. Où c'est? On confond souvent Mayotte et les Comores avec les Açores, par exemple. Non, Mayotte et les Comores se trouvent à l'entrée nord du canal du Mozambique, entre Madagascar et le Mozambique, c'est-à-dire au sud-est de la côte africaine, entre cette côte sud-est et l'immense île de Madagascar. C'est quatre îles, en fait, ces Comores. C'est quatre îles, et en disant quatre îles, je dis déjà quelque chose, je prends parti. Oui, vous allez voir. Quatre îles qui sont l'archipel des Comores. Comores, ça vient d'un mot arabe qui veut dire la lune, Comores. Les îles, l'archipel de la Lune. C'est très beau, ça fait rêver. Et donc, ces quatre îles ont une histoire. Elles ont une histoire très ancienne, peuplée par des gens venus d'Afrique, les Bantous, peuplée par des gens venus de la Perse, peuplée par des gens venus de la péninsule arabique, peuplée par des Indo-Pakistanais, peuplée par des Indonésiens lointainement venus à Madagascar, peuplé par des Malgaches d'autres origines, peuplé par, et aussi bien sûr par des Occidentaux, depuis que les Portugais naviguant autour de l'Afrique, eh bien, s'arrêtaient dans ces îles des Comores. C'est dire le mélange, c'est dire la mosaïque, c'est dire les influences. Mais une influence importante a été l'islam. Les îles des Comores ont été assez tôt islamisées. Et puis l'histoire, une histoire de territoire, de sultanat de sultan qui règne soit sur l'île, sur les îles entièrement, soit sur des parties de ces îles, jusque on va faire de grandes enjambées pour raccourcir un peu l'histoire, jusqu'à la moitié du 19e siècle où les Comores, ces quatre îles, passent sous souveraineté française, 1840 ou 41, je crois.
bien. Et on s'occupe pas beaucoup de ces îles qui se présentent pas vraiment d'intérêt. Il n'y a pas de ressources, il n'y a pas grand-chose à en faire. Ça sert comme réserve pour le commerce des esclaves. Des razzias depuis Madagascar sont organisées pour venir prélever des populations qui sont vendues pour différents types de traite. Quand la France prend le contrôle de ces îles, il faut dire que cette traite existe encore. Et puis, il y a l'abolition de l'esclavage en 1848 dans cette région. Par la suite, lorsque la France prend le contrôle de Madagascar, colonie de Madagascar, eh bien, les îles des Comores sont rattachées à Madagascar. Lors du vent qui souffle vers les indépendances, on n'entend pas beaucoup parler des îles Comores. Il faudra attendre 1975 pour qu'un référendum soit organisé, pour savoir ce que veulent les Comoriens. Que voulez-vous, Comoriens? Alors là, il se passe une chose étonnante, c'est que dans leur majorité, les habitants des quatre îles, dans leur majorité, disent « nous voulons l'indépendance ». Mais il y a l'une des îles, l'île de Mayotte, qui dit « nous voulons rester français ». C'est-à-dire qu'il y a trois îles qui majoritairement veulent l'indépendance et une qui veut rester dans le giron français. Et à partir de là, eh bien la France considérera que cette île fait partie du giron français. Mais du point de vue du droit international, du point de vue des Nations Unies, il y a là une délinquance française. Il y a la France n'est pas est en contradiction avec le droit international. Et depuis 1975, régulièrement, il y a des résolutions des Nations Unies qui condamnent la France pour sa présence à Mayotte. On le sait peu, on le sait pas, mais c'est une situation et c'est quelque chose qui est très très présent. Donc aujourd'hui, on a eh bien, une de ces îles qui est sous contrôle français, qui est française, qui est tout à fait française, qui est un statut particulier, c'est une collectivité départementale depuis 2001, après avoir été une collectivité territoriale, une collectivité départementale, alors que, eh bien, les trois îles des Comores constituent un État. Il y a une union de ces trois îles. Pourquoi nous sommes là? Parce que vous souvenez à l'automne dernier comment le ministre Monsieur Barouin a fait cette déclaration étonnante sur le droit du sol. Il faudrait revoir le droit du sol dans certains territoires. Il pensait essentiellement à Mayotte. Évidemment, tout le monde a sursauté et tout le monde s'est intéressé à ce qui se passe dans cette île. Ce qui se passe dans cette île, c'est que un habitant sur trois est un clandestin, est un irrégulier, est un sans-papier. Ça pose évidemment un certain nombre de problèmes, des problèmes qui deviennent de plus en plus préoccupants, de plus en plus violents et qui pourraient devenir tout à fait explosifs. C'est ce qu'on va essayer de comprendre, c'est ce qu'on va essayer de vous raconter à partir d'aujourd'hui dans La Basse Suggestion.
Et voilà, on est à l'abri dans une maison en construction. Tout le monde nous a suivis. On s'est mis à l'abri ici, dans cette maison. Et qui, par exemple, cette maison-là, qui est-ce qui l'a construit?
Cette maison appartient à un Maoré, mais ce sont les Anjouanais qui sont les...
C'est ça, les Anjouanais, c'est les clandestins qui font le travail.
Oui, oui.
Alors là, toute la journée, vous venez en attendant du boulot.
Ma vie en fait se résume à ça, me réveiller, aller m'asseoir sous le manguier, attendre qu'un travail se présente à moi en fait.
Alors qu'est-ce que tu trouves comme travail ici?
Je suis soudeur et je suis chauffeur aussi à la fois, donc je peux faire les deux.
Combien de temps tu as travaillé ce mois-ci depuis le début du mois là par exemple?
Ça pour faire ça?
Depuis le début du mois, j'ai pas du tout travaillé. Parce que j'ai la peur au ventre quand je sors dehors, la peur d'une rafle imminente.
Quand est-ce que tu as été raflé pour la dernière fois?
J'ai été raflé en 2001 deux fois, et puis en 2000 une fois. J'ai été renvoyé.
C'est pas cher quoi ça. Tu n'y noies pas soif. Quand tu n'y noies pas, haou renge bahario babo ushavani. Maintenant, ou pas cher quoi ça. Yo y a ni m'tan noies soif, m'tan toi je marque, m'tan noies, toi es bien soif, m'tan noies il houfa.
J'ai pris le quoi ça malgré tous les dangers pour venir à Mayotte.
Oui, parce que là on sourit autour, mais il y a des morts, il y a beaucoup d'accidents de traversée.
Cette image de acheter la mort. Il dit, en payant le retour en Kwassa, avec mon argent, j'ai acheté la mort.
Pourquoi ça? Pourquoi tu as acheté la mort?
Parce que c'est risqué, monsieur.
On prend des risques pour braver la mer, les dangers de la mer, pour arriver ici. Et arriver ici, on se confronte aux forces de l'ordre.
C'est les gosses qui tombent de la brouette.
Voilà, acheter la mort, on est loin des images, hélas, de beaux bleus lagons et de paradis, et pourtant il y a tout pour ça. Et il y a tout pour ça, sauf cette histoire. Voilà, ces hommes qui achètent la mort en faisant cette traversée. Bienvenue à Kaweni, qui est le plus grand bidonville français. Eh oui, c'est ici, c'est à Mayotte, c'est à Mamoudzou, sur les hauteurs de Mamoudzou, où dans cet immense bidonville de Kaweni se sert ces irréguliers. Parce que quand on dit sans papier, quand on dit clandestin, c'est une prise de position, je disais tout à l'heure, puisque c'est les gens qui viennent de là, viennent généralement d'Anjouan, c'est-à-dire l'une des îles
des Comores, une île sœur, et ils viennent ici, vous avez compris, évidemment, parce que, pour vivre, pour faire la vie, comme on dit, pour des raisons de santé, pour des raisons de boulot, pour des raisons de manger, tout simplement. Et ils viennent, ils prennent beaucoup de risques pour ça, ils achètent la mort, et ils viennent sur ces embarcations qu'on appelle des Kwasa-Kwasa, des barques dans lesquelles on pourrait mettre 10 ou 15 personnes tout au plus, et 15, c'est déjà prendre des risques, mais où ils montent à 30, parfois jusqu'à 40, et ils font cette traversée pendant des heures au péril de leur vie. Ils sont pourchassés, évidemment. Il y a la police de l'air et des frontières. Il y a un certain nombre de dispositifs dissuasifs. Et puis, ils finissent par aboutir sur des plages de Mayotte. Et là, ils essayent de se faire oublier. Oublier, pas tellement, puisque, en fait, depuis des années, ce sont ces sans-papiers qui font tout le travail sur l'île de Mayotte. On va nous le dire, on va nous le redire, c'est eux qui font tout le boulot. On les rencontre partout, ils sont ils servent au restaurant, ils sont maçons, ils sont taxis, ils font absolument tout le boulot. Et là, depuis quelques mois, on a décidé de les renvoyer, et on n'en veut plus, sauf que ils représentent quand même plus d'un tiers de la population. Alors c'est un sacré boulot que de les renvoyer. On plaisante, mais acheter la mort, c'est une. Il faut prendre ça au pied de la lettre. Parce que si on est dans le plus grand bidonville de France, à Kaweni, devant nous, on peut voir le plus grand cimetière marin de France. Parce que d'ici des côtes de Mayotte aux côtes d'Anjouan, à 70-80 kilomètres de là, eh bien, depuis 1995, on avance des chiffres de personnes qui se sont noyées dans ces traversées périlleuses. On avance un chiffre de 3000, 4000, 5000 personnes qui ont péri dans ces traversées. Donc c'est quand même une situation assez terrifiante. Alors on avance dans ce bidonville de Kaweni à la rencontre de ceux qui essayent là de survivre en attendant ou en essayant d'échapper aux fameuses rafles qui se multiplient.
Alors en face, il y a le magasin qui s'appelle Dollar. Voilà la petite épicerie de la rue avec des balindes vertes sur le seuil, et puis tout le petit monde de la rue qui nous regarde, parce qu'évidemment, les Muzungu, les Blancs avec les micros, c'est pas si souvent. Bonjour, comment vous vous appelez ?
C'est Dollar.
Dollar ?
Ouais.
Dollar, c'est le nom de votre boutique, c'est votre nom à vous ?
Oui. Hein ? Ouais, Dollar.
C'est Monsieur Dollar. Ouais. Qu'est-ce que vous vendez, Monsieur Dollar ?
Famous alimentation.
Ma boutique, c'est une alimentation générale.
Ça marche ?
Non.
Non, ça marche pas.
Ça marche pas, parce que...
je n'arrive pas à vendre parce que en ce moment les autorités sont en train de chasser les sans-papiers et j'ai plus de clients. Mes clients sont principalement des sans-papiers.
Ah là là, pourtant ça a marché depuis quand vous êtes là ?
Depuis 88.
Et vous venez d'où ? Alors en 88 vous êtes venu d'où ?
Comores.
Et pourquoi vous êtes venu ici ?
Business.
Pour le business.
Pour le business.
Alors ici, vous dites que les sans-papiers, il y en a de moins en moins dans le quartier ?
Depuis les manifs de la dernière fois, de septembre, d'octobre, les sans-papiers, il y en a de moins en moins.
Ils sont chassés.
Oui, il y a une forte pression de la police. Tous les jours,
Tous les jours.
Tous les jours. Ils rentrent dans le quartier, tout ça. Ils ramassent tous les jours.
Et ils renvoient. Bonjour.
Bonjour.
Vous vous appelez comment ?
Abdallah Seleman.
Vous faites quoi, vous, ici ?
J'ai retraité. J'étais travaillé à la mairie, gardien de l'école.
Gardien de l'école ?
Oui.
Et la vie a changé beaucoup ?
La vie a changé un peu, mais ce n'est pas tellement, parce que j'ai un nez ici à Mayotte.
Vous êtes né à Mayotte?
Oui, parce que mon grand-père, il a quitté en joie pour venir ici.
Ah, vous définissez comment? Dans votre esprit, vous êtes quoi? Vous êtes français, vous êtes quoi?
Oui, vous êtes français, mais les autres, les grands, ils ne comprennent pas, ils ne veulent pas, mais... Parce qu'ils
ne comprennent pas. Oui.
Oui, ils font comme les poissons, les grands, ils mangent les petits.
Les grands mangent les petits?
Oui.
Les grands quoi? Les grands blancs ou les grands maorais?
Non, les grands maorais, là.
Les grands maorais mangent, oui, les petits comme vous?
Oui. Les grands maorais, ils font comme les poissons. Ils voulaient manger les petits.
C'est ça.
Quand même, il connaît, toi, tu es maoré, mais quand il trouve sur la route, ah, moi, je connais pas toi. Quand tu es allé au bureau, ah, c'est qui ça? Après, quand il voulait, demain, il voulait faire la campagne, il te connaît. Après, quand il trouve le bureau, il rentre au bureau, il connaît pas toi. C'est ça le problème ici à Mayotte.
C'est comme ça que ça se passe à Mayotte. Alors voilà, on est à Kaweni, je le rappelle, dans ce bidonville. Et ce que disent déjà nos interlocuteurs, c'est que il y a un lien évidemment entre le reste des Comores, Anjouan, l'île d'Anjouan, et Mayotte, des liens très anciens. J'essayais de retracer un peu l'histoire de ces quatre îles, et c'est des langues communes, religion la même, et puis de longues traditions, mœurs communes, et puis des liens de famille tout simplement. Donc quand on a essayé de couper, d'isoler cette île, et quelque chose de c'est vécu comme une fracture, comme une coupure. Donc il a fallu, ça a entraîné des rivalités, et aujourd'hui ces rivalités sont exacerbées, les relations sont en train de pourrir, surtout qu'un certain nombre d'élus tout à fait démagogues exacerbe un certain climat de xénophobie qui tourne au racisme, un racisme anti-pauvre. On est en train à Mayotte de criminaliser la misère, de punir les pauvres comme on le fait ailleurs, à ceci près qu'en plus, là, il y a un lien ancien, familial, entre les uns et les autres. Et c'est d'autant plus terrible et d'autant plus explosif.
Bonjour, vous vous appelez comment?
Youssouf Ali.
Youssouf Ali. Là, on est en train de voir un peu comment les gens vivent ici dans le quartier. C'est quoi? Vous travaillez pour la ville?
Ah non, oui, mais c'est pour protéger la police, mais parce que nous sommes des clandestins, nous n'avons pas les solutions pour vivre. On protège comme ça, parce que les gens
vous qui vous travaillent... Vous protégez avec des vêtements, comme si vous étiez des employés municipaux.
Oui, exactement.
Donc c'est des machins, des espèces de vestes fluo.
Oui.
Comment portent les employés municipaux, les gens qui font le nettoyage urbain? Si bien qu'avec ça, les flics t'emmerdent pas, quoi. Ils pensent que t'es un employé municipal. Mais vous venez d'où?
D'un Grand Comore.
Vous venez des Grandes Comores, et vous êtes sans papier?
Mais mon fils est né ici à Mayotte.
Ouais.
Mais il n'a pas de papier française.
Ah d'accord. Il a quoi comme papier?
Un extrait de naissance seulement.
Ouais. Et depuis quand vous êtes là?
2002.
Donc ça fait 3 ans que vous êtes là sans papier?
Exactement. Bon, on travaille, un petit bricole comme ça, mais pas de travaux continuer.
Ouais.
Maçonnerie, comme ça. Chaque fois, on trouve quelques bricoles dans les quartiers comme ça, on cache, en évitant la police comme ça. Mais
pour des entreprises?
Ouais, exactement.
Ah. Alors donc, il y a des entreprises qui vous font travailler.
Mm-hmm, c'est ça.
Combien ils vous donnent?
Par heure, 3,20 €.
3,20 € par heure. Et on vous paye toujours, ou des fois le patron oublie de vous payer?
Ah non, il y a des patrons qui... Non,
qui oublient,
Oui, chaque fois.
Ils oublient.
À la fin. Quand le travail est fini, on dit, ça c'est pour moi l'argent, c'est pas pour vous. Allez, si vous voulez, vous allez faire ce que vous voulez. Pas d'autre choix, parce que chaque fois que le clandestin va faire une plainte là-bas, la police a refusé. Chaque fois, on nous dit, vous êtes les clandestins, pas des papiers, c'est pas la peine de venir ici, vous allez discuter avec vos patrons, vous pouvez faire ce que vous voulez, ça y est.
D'accord. Ça t'arrive de travailler pour des Wazungu, pour des Blancs?
On préfère de travailler avec les Wazungu comme ça, mais les Noirs comme nous, c'est presque celui qui nous fait le mal.
Ah bon, les Wazungu sont plus gentils, sont moins méchants?
Ah oui, exactement.
C'est vrai?
C'est vrai, j'ai dit la vérité.
T'as déjà été expulsé?
Ah bien sûr.
T'as déjà été ramassé?
Ah oui.
Souvent?
Ah oui.
Et renvoyé là-bas?
Ah oui.
Et à chaque fois, t'es revenu?
Avec ça.
Oui. Combien de fois?
Pour moi, j'ai fait 2 fois.
Deux fois.
Combien tu payes le passage?
Chaque voyage, on payait 200 euros.
200 euros le passage. Mmh. Quelle vie, hein?
Ah, c'est vie difficile.
Vous
savez que chez nous, il y a beaucoup de choses à faire. Chaque fois, il faut cotiser. Les gens de la Grande Combe qui sont ici, chaque fois, on cotise de l'argent.
Alors, une partie de l'argent, tu le donnes ici à une association?
C'est pour développer notre pays. Parce que vous savez que là-bas, les gouvernements comoriens se refusent de faire ce que nous voulons. Il faut qu'on fasse les foyers de jeunes, il faut qu'on fasse les terrains de foot, etc. etc. C'est nous
c'est vous qui le faites. Vous êtes organisé, c'est une association de grands Comoréens d'ici, et vous réunissez des fonds sur tes salaires. Quand tu gagnes quelque chose, tu donnes une partie. Et ça, c'est une association qui, là-bas, fait du développement. Et puis, le reste?
Et le reste, on va faire quelque chose chez nous. Parce que nous avons des familles là-bas qui nous entendent. Quand on trouve de l'argent, il faut qu'ils les envoient là-bas.
Tu as combien de personnes là-bas que tu fais vivre?
Ah, c'est beaucoup, parce que à peu près sept enfants comme ça, c'est mes petits frères et mes parents, etc., etc., comme 11 personnes.
Tu fais vivre 11 personnes?
Ah oui.
Mais il y a beaucoup de rafles ici dans le quartier?
Bien sûr, il y en a. Ah, c'est plus.
C'est plus dur maintenant.
Ah oui. Il faut qu'ils nous donnent la liberté totale de vivre ici, pour travailler comme ça, sans problème.
Dis-moi, si tous les clandestins partaient d'ici, si tous les sans-papiers partaient, est-ce que le pays ici continuerait de fonctionner?
Moi, j'espère que quand les clandestins sont partis chez nous, j'espère que toutes les choses, tous les travaux qui sont là, ça va bloquer.
C'est ça.
Pour moi...
C'est vous qui faites fonctionner l'île ici?
Oui.
Enfin, en grande partie?
Oui, c'est nous.
Bonne chance à toi.
Merci.
Voilà, rapidement évoqué la vie dans ce bidonville de Mayotte. Le problème de ces sans-papiers, de ces irréguliers, qui devient de plus en plus oppressant, que s'est-il passé? On évoque beaucoup les événements de septembre, octobre dernier, à Mayotte, qui ont vu des manifestations d'irréguliers, de sans-papiers, et des manifestations aussi de Mahorais, d'habitants de Mayotte, réclamant le renvoi et la reconduite de ces sans-papiers, qui, je le rappelle, sont là depuis longtemps, qui font tout le boulot, et surtout qui viennent des trois autres îles où la pauvreté est très très grande. Les niveaux de vie sont... ça va de 1 à 10 peut-être, donc on comprend très bien. On va aller faire un tour dans ces îles, on va aller à Anjouan, on va aller à Moélie, on va aller en Grande Comore, et on va voir évidemment la très grande pauvreté qui sévit, pas seulement d'ailleurs la pauvreté, mais l'instabilité politique, la corruption, etc. On va avoir l'occasion de découvrir et d'entendre parler et de voir d'ailleurs tout ça, mais évidemment que le niveau de vie est très différent. Il est tout à fait naturel, c'est la chose la plus naturelle du monde, que d'essayer de vivre le moins mal possible. Et donc, voilà, face à cette présence étrangère, puisque du point de vue du droit français, enfin du point de vue de la France, il y a deux pays différents, mais je le rappelle encore une fois, du point de vue du droit international, du point de vue des Nations Unies, le litige reste entier depuis 1975. Alors, on est allé voir
un élu qui s'appelle Ali Souf, qui est maire UMP, qui est président de l'association des maires de Mayotte, qui est maire de Tsingoni, qui est une des communes de Mayotte, et qui lui est la voix de la fermeté, et qui, on va le voir, trouve que Nicolas Sarkozy, le ministre de l'Intérieur, qui a demandé, qui a fixé pour 2006 la reconduite de 12 000 de ces sans-papiers, eh bien lui, Ali Souf, il trouve que c'est largement insuffisant, puisque selon lui, il y a dans cette île 70 000 sans-papiers, et eh bien il faut les renvoyer. Ali Souf.
Moi je pense que bon, sur 160 000 habitants, il faut compter à peu près entre 60 et 70 000 personnes en situation irrégulière qui vivent ici aujourd'hui.
Et alors qu'ils font quoi? Ces 70 000 personnes représentent quoi économiquement?
Mais écoutez, ces personnes en situation irrégulière d'abord sont employées, une partie par les Maorais, une partie par les fonctionnaires qui travaillent à Mayotte et une partie par les entreprises. Donc ils sont en fait employés par tout le monde ici.
Vous dites bien qu'ils ont une activité économique, c'est-à-dire ils sont quoi? Ils sont dans la maçonnerie, dans le bâtiment, dans l'agriculture, dans tout un tas de branches, comme domestiques, comme gens de maison, comme dans des tas de boulots.
Elles font tout. Tout. À tel point que le Maoré aujourd'hui ne travaille plus. Il se croit étant le roi, il fait travailler des personnes en situation irrégulière, sachant que bon, le Maoré lui-même n'a pas les moyens de pouvoir vivre décemment, et donc il fait travailler des personnes en situation irrégulière, je dirais même en les payant moins que ce qu'elles doivent percevoir. Par exemple, moi je sais que bon, ici, on les fait travailler, on ne compte pas les heures qu'elles font, mais elles travaillent du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil pour 100 euros le mois. 100 euros à Mayotte, mais il faut aussi savoir que bon, ces personnes-là ne travaillent pas seulement chez un seul patron, entre guillemets, mais chez plusieurs patrons. Ils peuvent avoir 3, 4 patrons, donc ce qui leur fait à peu près 400 euros par mois. Mais en même temps, il faut savoir également que le fonctionnaire comorien qui travaille là-bas aux Comores, il ne gagne pas 100 euros par mois. Il gagne 80 euros. Mais 400 euros qu'il gagne à Mayotte, c'est un fortuné comorien.
C'est une fortune pour un comorien.
Tout à fait.
Oui, mais enfin, au prix de la sueur. Quoi.
C'est au prix de la sueur, mais pour eux...
C'est une fortune au prix de la sueur.
S'ils étaient restés aux Comores, il faut savoir que bon, ben, ils n'auraient jamais gagné
cet
argent-là.
C'est ça.
Bon, c'est cela. C'est des gens qui viennent en masse. On ne sait pas, le plus souvent, on ne sait pas où ils sont, on ne sait pas ce qu'ils font, et on ne sait pas depuis quand ils sont là. Sachez qu'il y a 15-20 ans, à Mayotte, il n'y avait pas de problème d'insécurité. Aujourd'hui, cela est préoccupant, parce que vous dormez dans votre maison, vous êtes obligé d'abord, dans un premier temps, de mettre des grilles dans toutes les fenêtres, vous devriez avoir une porte blindée. Malgré cela, vous êtes quand même cambriolé. Donc, l'insécurité règne aujourd'hui. La délinquance juvénile réapparaît. Et qui en sont les auteurs? Ce sont en fait la plupart des personnes en situation irrégulière. Ils vendent de la drogue douce à des enfants. Je dirais, moi on m'a dit que dans ma commune, il y a eu un enfant de 7 ans à qui on a fait fumer du hashish. Oui, donc ça, c'est des choses inadmissibles.
Alors évidemment, on m'a dit un enfant du hashish, ça ne peut pas constituer véritablement des informations, c'est très très flou. Vous imaginez bien que ce genre de propos, ce genre de position est contesté par une partie de l'opinion. Mais ce qui est frappant à Mayotte, c'est l'absence de débat. Pourtant, on est en France, et en France, eh bien, on a un espace pour le débat public, pour échanger des idées, polémiquer, etc. Ben, il semble qu'à Mayotte, non, ce soit pas le cas. En tous les cas, c'est ce qui nous a étonné avec Guy Antil en arrivant, c'est comment tout un tas de gens sont précipités sur nous. Ah, mais il faut que vous disiez ça absolument, c'est très important. Et puis, ça, il faut le dire, il faut que vous le disiez. On me dit, attendez, vous avez des médias, vous avez des espaces pour vous exprimer, vous avez des télévisions, etc. Ben, pas tellement. Et il y a un déficit de débat démocratique. Je dis pas de démocratie, mais au moins de débat démocratique dans cette ville, dans cette île, et aussi sans doute dans cette commune de Tsingoni. Nous sommes avec le maire UMP de cette charmante petite cité.
Il n'y a pas plus longtemps qu'hier, il y a eu une bagarre à Mamouzou. Une dame qui s'est fait agresser par un clandestin, actuellement, elle est hospitalisée à Mamouzou. Savez-vous qu'il y a eu une dame en situation irrégulière qui avait été tapée mortellement par un homme l'année dernière. Et ils sont à l'origine de tout cela. Allez voir, par exemple, la prison de Majikavo. Vous avez un peu plus de 70% des détenus sont issus des personnes en situation irrégulière. Pourquoi elles sont là-bas? Si elles étaient bonnes, on ne les aurait jamais envoyées en tôle. Mais ce n'est pas le cas. Donc, partout, on a des difficultés. Et là, ça a également un problème, hein, je dirais, par rapport justement à la santé. Vous savez qu'au niveau de l'hôpital, vous avez un peu plus de 70%. Il y en a qui ont peur des chiffres. Hein, quand vous interrogez le centre hospitalier, les responsables du centre hospitalier, ils vous disent « Ah non, il y a 60% des naissances sont issues des personnes étrangères. » Mais ce n'est pas vrai. Ils ne veulent pas donner les vrais chiffres. C'est 80%. 80% des personnes qui accouchent dans les différentes maternités sont issues de l'immigration clandestine. Donc tout cela, si vous voulez, fait que le Maoré lui-même se dit « ça suffit, on ne peut plus ». Donc il faut que ça s'arrête. Nous voulons que les personnes qui viennent à Mayotte soient des personnes que nous avons nous-mêmes demandées.
Alors il y a eu aussi des listes de Maoré hébergeants, c'est-à-dire qui logent chez eux et sans papier comme rien, ou qui les emploient et qui s'exposent aux fureurs de la loi.
Tout à fait, mais vous savez que bon, le Maoré a le sens de l'hospitalité. Mmh. Et il aime bien rendre service. Mais ce que le Maoré ne sait pas, c'est qu'aucun Maoré ne pourrait être employé à Anjouan. Et il n'y a aucun Maoré qui a ne serait-ce qu'un open terre à Anjouan. C'est impossible, parce que bon, vous êtes Maoré, vous n'êtes pas le bienvenu chez nous. Ça c'est clair là-bas, c'est comme ça. Et ça s'est toujours passé de cette façon.
Comment vous expliquez ça?
Ah ben écoutez, c'est le fait que, bon, en fait, l'Anjouanais, il est envahissant. Parce qu'on parle souvent Anjouanais, Anjouanais, Anjouanais. À Mayotte, il y a des grands Comoriens qui vivent ici. Il y a des Anjouanais, il y a des Moéliens. Il y a même, vous savez, bon, ben, parmi les immigrés clandestins, vous avez également des Malgaches qui passent par Anjouan pour entrer à Mayotte. Vous avez également les Africains du Grand Lac. Donc, on ne peut pas continuer, je dirais, on ne peut pas continuer à...
Donc, votre but, c'est... Mayotte aux Mahorais, un point c'est tout.
Mayotte aux Mahorais et aux étrangers qui empruntent les voies régulières pour rentrer à Mayotte. Le préfet a eu une feuille de route du ministre de l'Intérieur qui lui dit qu'en 2006, il faut un peu plus de 12 000 clandestins. Il faut qu'il y ait 12 000 clandestins qui rentrent là-bas. Mais 12 000 comparé à 70 000, il en restera 58 000. Hein. Donc ça en fait encore beaucoup. Et que donc parmi ceux-là, il y en a qui resteront naturellement, il y en a qui repartiront. Et rien ne dit qu'on pourra également empêcher ceux qui sont là-bas de rentrer à Mayotte. La distance entre Anjouan et Mayotte, c'est vrai, elle fait 70 km, mais ces 70 km, ça devient aussi un cimetière. Hein. On dit même que c'est le plus grand cimetière de l'océan Indien. On n'arrive pas à avoir un chiffre précis du nombre de personnes qui font naufrage là et qui disparaissent, qui se noient et tout cela. Il est estimé, depuis le début de ces événements, il est estimé à peu près à 5000 personnes disparues comme ça.
Depuis 1995.
Oui. Donc ça, c'est une question, c'est préoccupant comme situation.
Et vous pensez, vous, que l'État pourrait, s'il le voulait, arrêter complètement ce flux migratoire?
L'arrêter, non. Il ne peut pas. Par contre, il pourra limiter ce flux migratoire. On intercepte les Kwassa-Kwassa régulièrement. Parce que déjà là, il y a déjà un radar qui fonctionne. Et qui est performant, parce que bon, il voit tout. Il voit même très loin. Là, déjà, les passeurs savent maintenant qu'il faut contourner le radar. Il faut passer à un peu plus de X kilomètres, je ne vais pas le dire ici, X kilomètres pour qu'on ne soit pas vu. Bon, mais il y a 2 ans, le tarif pour passer d'Anjouan à Mayotte était de 600 francs français. Là, actuellement, il est à 200 euros, parce qu'ils savent que le radar les voit. Donc, il y a plus de contraintes. Ils ne sont pas sûrs de pouvoir y arriver. Donc ceux qui veulent vraiment faire la traversée, ils savent qu'ils vont payer plein pot. Et c'est ce qui se passe là-bas actuellement. Donc, les interceptions plus destruction des barques, c'est un moyen de dissuasion de ces personnes-là, d'abord de ces passeurs d'une part, mais également pour ceux qui veulent venir, hein, les candidats à l'exil, quoi.
Ainsi parlait Ali Souf, le maire UMP de Tsingoni à Mayotte. Il est en parlant comme il le fait en accord avec la plupart des maires de Mayotte qui sont montrés effectivement très très durs avec les sans-papiers, incitant les Mahorais, les habitants à dénoncer leur clandestin, faisant des listes, interdisant l'accès aux écoles à certains enfants, etc. On reviendra sur tout ça. On va revenir au bidonville de Kaweni avec les clandestins eux-mêmes, ceux qui sous ce manguier attendent toute la journée un éventuel travail, à peine si de temps en temps ils se poussent un petit peu contre le tronc de l'arbre quand la pluie tombe, puisque c'est la saison des pluies.
Moi je m'appelle Kamadine Saïd en journée.
Comment tu es venu ici?
Ah,
je suis passé par les voies légales.
C'est 88. Et maintenant, c'est la carte de séjour.
J'ai une carte de séjour.
Je
suis fitié en fait de mes compatriotes en Joanne qui n'ont pas de papier ici et qui souffrent. Je ne peux pas les aider parce que j'ai une famille aussi à nourrir, mais quand je les vois se faire pourchasser dehors, ça me fait mal, quoi. Oui, les pressions s'intensifient. D'ailleurs, ces dernières semaines, il y a eu 50 personnes d'arrêtées.
Qui ont été arrêtées, qui ont été reconduites.
Hier, d'ailleurs, ils étaient ici. La police était ici.
Mais comment ça se passe, alors, les rafles de la police ici, dans le quartier, dans le bidonville?
Dès qu'ils arrivent, ils nous encerclent et ils demandent qui a des papiers, ceux qui n'en ont pas, ils les embarquent directement, quoi. Des fois on les repère, des fois non. Quand on les repère, on s'enfuit, sinon ils nous prennent de surprise.
Même femmes, même enfants, ils prennent la police. Comme on a l'air d'un homme qui était à l'homme, c'est mal à papier.
Cette situation me fait mal, moi qui ai des papiers, quand je regarde mes...
Je comprends.
Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé, par exemple, qui n'ont pas encore été payés, qui sont pris dans les rafles et qui sont renvoyés sans être payés.
Sans être payés.
Oui.
Ah, ben c'est pratique pour le patron.
Ah oui, absolument, ça leur fait plaisir au patron parce que de toute façon, c'est eux souvent qui vont dénoncer, qui vont appeler les flics pour venir ramasser.
Un petit peu avant la paye. Qui est-ce qui fait ça? C'est des entrepreneurs? C'est des particuliers?
Particuliers.
C'est des particuliers?
Oui.
Des Muzungu? Des Blancs?
Non, mais ce n'est pas Muzungu. Maoré.
C'est des Mahorais.
Oui.
Les petits patrons Mahorais. Le
petit patron Mahorais, c'est qui a fait ça. Les Mzungu, mon Mzungu, il donne un peu. Il n'a pas donné un règlement.
Les Mzungu, en fait, ils payent en douce, mais ils payent
quand même un peu.
Les Mzungu, c'est nous. On les retrouvera demain, les Mzungu de Mayotte. Merci à tous. C'était un reportage avec Guy Vanquet, traduction de Nassouf Djellani, à lire de Pierre Caminade, Comores. Mayotte, une histoire néocoloniale aux éditions Agone. Et puis le guide Comores-Mayotte qui vient de sortir est très intéressant. Toutes les informations sont disponibles sur le site de Radio France. À la rubrique émission La Basse, je suis technique aujourd'hui Michel Béziquet, Olivier Riotor. C'est Antoine Chaouayan Chouquet qui a réalisé cette émission modeste et géniale. Le répondeur de La Basse, je suis, c'est le 01 56 40 37 37. Réclame.